Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Un programme bien chargé au menu de cette émission aujourd'hui et pour commencer, honneur aux femmes avec notre motarde en or, Patricia, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Alors tu nous proposes une séquence avec Johan Vega. Qui c'est ce Johan Vega?
Alors Johan, nous allons te présenter tout de suite. Tu es le porte-parole d'une équipe qui est aux commandes de l'organisation d'un super événement qui va se passer en juin. Donc c'est un petit peu loin là dans le calendrier par rapport à nous. Mais si on vous en parle, c'est que justement c'est un événement qui vaut vraiment le coup et on vous incite à bloquer dès à présent la date dans votre agenda pour ne rien raté. Alors, c'est quoi cet événement?
Alors d'abord, bonjour à tous. Oui, donc je suis un des organisateurs de la Old Race. Donc c'est un festival qui tourne autour des hot rods, de la moto et surtout du rock'n'roll aussi. Voilà, donc en gros, c'est un anneau en terre et c'est des reconstitutions de, entre guillemets, courses, parce qu'on est bien dans...
Oui, ah ouais, c'est super. Donc, on va pouvoir tout savoir justement sur cet événement qui est effectivement très, très riche.
Voilà, la suite du sommaire avec Philippe et Maxence. On vous propose un petit coup d'œil dans le rétro pour la 50e édition de l'Enduropale qui a eu lieu le week-end dernier. Alors d'abord, Philippe qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous.
Alors toi, tu es le vainqueur de la catégorie V2.
Oui, alors pas sur le Touquet, mais pour le championnat de France.
Non, le CSF.
Hein. Oui, c'est ça, voilà. Le championnat de France des Sables. Oui. Puisque là, au Touquet, bah, malheureusement, j'ai cassé sur le dernier tour. Oui. Et donc, voilà. Donc, un peu déçu pour l'histoire du.
Mais alors, le classement de cette catégorie V2 ne se fait que sur 4 courses, je crois.
Alors, sur 5 courses.
Mais le Touquet ne compte pas.
Non, le Touquet, depuis déjà, je pense, au moins 2-3 ans, sort du championnat de France.
Oui. D'accord, très bien. Et puis, alors, on a Maxence.
Oui. Oui, ah bah je voulais faire un petit honneur aux femmes justement, oui, parce que pour cette catégorie vintage, la première place du podium, c'était pour Aurélie François. Et elle est effectivement championne, c'est une Berquoise, et qui est championne de France vintage, parce qu'effectivement, elle a gagné toutes les étapes de ce championnat.
Voilà, ensuite on a Maxence, hein, toujours dans ce petit coup d'œil dans le rétro pour cette 50e édition de l'Enduropale. Alors Maxence, là on peut l'applaudir, hein, parce que lui, Maxence, passe devant le micro. Mais toi,
merci.
Parce que lui, il a fait la course du dimanche, parce que toi, Philippe, c'était du vendredi.
Oui, c'est ça.
Ça allait encore, hein, la météo était clémente. Hein. Ouais. Par contre, Maxence, chapeau, parce que avoir fait... alors, t'as fait 6 tours, t'as fait les 3 heures, et avec une cove.
Ouais.
Vite fait, dis-nous si ça a été facile ou difficile.
Le dernier tour a été difficile, ouais. Mais la moto a bien fonctionné, et c'était super cool. Ouais.
Alors, une cove, c'est quelle marque, cove?
Cove, c'est une marque chinoise.
Ouais.
Qui est présente sur le Dakar depuis 2-3 ans et qui fait des bons résultats au Dakar, notamment en 2025, 15e. Et il a gagné quelques... Donc Nils, qui est le pilote qui a gagné quelques étapes en rallye 2 au Dakar cette année.
D'accord. La majeure, y a beaucoup de pilotes qui ont apparemment eu froid, hein, durant l'épreuve. Ils ont eu du mal à se réchauffer.
Ouais, épreuve très difficile au niveau météo.
Ouais.
Et on a été trempés du début à la fin.
Oui. Bon, écoute, tu nous en parleras de ça tout à l'heure dans les séquences. Voilà la suite du programme plein feu sur le. Alors là, c'est plein feu sur le programme du salon de la moto, du quad et du scooter, hein, qui aura lieu les 14 et 15 mars prochains à Douai. Et nous avons Fabrice qui est l'un des organisateurs. Fabrice, bonjour.
Bonjour la Miche, oui effectivement, les 14-15 mars, le salon de la moto du collège Soutard des Hauts-de-France.
Des Hauts-de-France, hein, ouais, tu précises des Hauts-de-France.
Voilà, des Hauts-de-France, c'est important puisqu'en fait le rayonnement du salon, aujourd'hui on a plutôt un rayonnement au nord de Paris. Aujourd'hui le salon est devenu le plus gros salon moto au nord de Paris.
D'accord, 37 000 visiteurs à l'année passée.
Oui c'est ça, 37 000 visiteurs. Ouais. On est en progression, je veux dire, par rapport aux autres, à la première édition. Et cette année, on a vraiment soigné les têtes d'affiche pour passer, je dirais, un cap.
Bon, y a quelques petites modifications, enfin des nouveautés, hein.
Pas mal de nouveautés.
Tu nous en parleras dans cette émission.
Tout à l'heure, mais pas mal de nouveautés, ouais.
Voilà, très bien. Voilà, et on va terminer avec Yves Coutel. Yves, bonjour.
Bonjour.
Tu veux nous parler d'un donc tu veux terminer l'histoire, en fait.
Terminer l'histoire, exactement. Ouais. Terminer l'histoire du tour du monde des frères Omidvar et notamment de la partie qu'ils ont faite quand ils sont revenus à Téhéran, ils sont repartis en deux chevaux. Deux chevaux qu'ils avaient pris au passage en passant par Paris avant de retourner une première fois sur Téhéran.
Eh bien écoute, on est impatients de savoir, de connaître l'histoire, la fin de l'histoire. Voilà, et puis pour m'aider dans cette émission, eh bien nous avons notre président de Kikinkoute Tupal, Luc, bonjour.
Merci, merci l'ami, bonjour, sympa. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Et voilà. D'ailleurs, je suis venu avec Maxence et je repartirai avec Fabrice.
D'accord.
Non, c'est parce que je voulais dire qu'on avait des invitations. On a des invitations pour le salon de la moto. Oui. Des Hauts-de-France, hein, du 14 et 15 mars, on a des invitations à faire gagner. Oui. Donc tu donneras ton numéro de téléphone, hein, tu donneras ton numéro de téléphone, Amish,
vite que ça marche,
à faire. Voilà. Et comme ça, on t'appellera, on pourra gagner des entrées.
On verra, oui, bien sûr. On verra, non, c'est sûr, oui, bien sûr. Alors, vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 à la technique, on retrouve notre pilote d'émission, forcément Laurent, et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. À tout de suite.
A lot of stories I'd like to tell. I've been everywhere, done everything. You might not believe it, but it's true. Picked a lot of cotton before I picked a guitar. Drove myself a tractor before I drove a car. I've flown my own plane to get where I need to go. I've been all around the world. My home is on the road. Been there, done that. Stories I could tell. Been there, done that. Still alive and well. I played the smoking juke joints in every concert hall. The rockers and the high rollers shall stage it with them all. Kings, queens, and presidents, I've seen them come and go. From the palace to the White House, I gave them all a show. I've been there and done that, stories I could tell. I've been there and done that, still alive and well. I've been there and done that, stories I could tell. I've been there and done that, still alive and well. I can't believe the hell that I've been through. My life is like a movie, but every scene is true. Been there, done that, stories I can tell. Been there, done that, still alive and well. Been there, done that, stories I could tell. Been there, done that, still alive and well. We'll be right back.
magazine de la moto, c'est sur Campus Lille 106,6, et c'est tous les dimanches à partir de 11h. Patricia, on va enchaîner avec Johan.
Oui, et puis la Old Race, donc après 2022, 2024, enfin 2026, avec la troisième édition de l'événement. Johan, tu as déjà évoqué les trois points essentiels de l'événement. Donc tu disais le rock'n'roll, ça, c'est
oui,
la
voilà.
musique, c'est...
Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un événement au-delà des runs et d'une très grosse exposition de voitures et de motos. C'est vraiment un week-end hot rod et rock'n'roll. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment faire venir les gens en immersion dans une idée années 50. Alors même si les voitures en expo sont pré-65, hein, on parlait sur ces dates, tout ce qui est sur l'anneau, sur les runs, parce que comme je disais tout à l'heure, on ne parle pas de course. On est dans des reconstitutions, c'est des runs. Donc là, c'est des véhicules pré-50. Ensuite, le car show qui accueille à peu près 170-180 véhicules, surtout voitures et quelques motos, là sont pré-65. Et ensuite, la musique, l'après-midi et les soirs, qui sont essentiellement du blues ou du rockabilly, tout ce qui est rock'n'roll dans les mêmes années, quoi, années 50.
Alors, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est le hot rod en quelques phrases?
Oui, alors le hot rod, ça part des véhicules, donc... avant 1950, pour la petite histoire, c'est les gens qui rentraient des guerres, prenaient un peu dans le monde de la moto, c'est exactement pareil.
Aux États-Unis.
Voilà, aux États-Unis, on n'avait pas beaucoup d'argent et on bricolait des voitures derrière la maison, on faisait ça de carrément sur le trottoir. Et le samedi soir, les teenagers, les jeunes, faisaient des runs pour un peu les gros bras de l'époque, quoi. Donc on essaie de reconstituer ça, c'est un peu l'idée de American Graffiti, le film des années 70.
C'est ça, c'est-à-dire avec rien que dans le nom, il y a l'évocation de la mécanique. Je vais peut-être me tromper, c'est les bielles brûlantes ou quelque chose comme ça. Des bielles chaudes. Et donc, effectivement, ce côté de, comment dire, préparer les véhicules au plus économique, mais aussi en boostant un petit peu leurs compétences.
Oui, voilà, le hot rod, donc on retire les ailes, on retire tout ce qui est superflu. Hein. Bon, moi, par exemple, je roule avec un roadster de 1929. J'ai même pas d'électricité, il y a juste une batterie pour démarrer, c'est tout. Il n'y a pas de phare, il y a les sièges, on retire tout ce qui est tout ce qui est superflu, on retire.
Est-ce que c'est la même démarche par rapport aux motos, ou c'est plus les motos anciennes, elles sont vraiment gardées dans leur jus?
Oui, alors oui et non, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, donc je suis moins pointu en moto, mais la moto phare de ces événements, c'est la WLA Harley-Davidson. Donc quand on la connaît...
C'est la moto du débarquement.
C'est ça. Ouais. Donc c'est quand même très gros, avec une selle énorme, avec des garde-boue énormes. Là, en race, on retire les garde-boue, on garde vraiment l'essentiel.
Oui, ce que disait Johan, en fait, il y a ce côté-là, hein, avec l'économie, et l'économie, je dirais, d'après-guerre, c'est ces jeunes militaires qui étaient démobilisés et qui se retrouvaient avec très très peu de moyens. Et,
voilà, c'est ça.
Voilà. Et donc, c'est tombé un peu en désuétude. Et puis là, vraiment, dans l'esprit vintage, maintenant, ça repart complètement. Même.
Oui, il y a un engouement depuis à peu près une dizaine d'années. Pour la petite histoire, la Old Race, c'était normalement prévu avant le Covid. On avait lancé ça en 2018-2019. On était déjà sur une première date annoncée. À l'époque, la Normandie Beach Race, qui est le deuxième gros événement, enfin le premier parce que c'est quand même beaucoup plus gros que nous, n'existait pas encore. Donc on était arrivé chez eux avec déjà notre date qui était prévue, tout ça. Et il y a eu un engouement énorme autour de ça. Et d'ailleurs, on en voit de plus en plus. Il y en a un en Espagne dans un mois. Il y en a un en Hollande en 2027. Il y en a un peu partout en Europe qui se crée, parce qu'il y a cette demande de voir autre chose que des événements statiques. Il y a eu beaucoup d'événements voitures et motos qui sont statiques. Et là, il y avait quelque chose qui bouge, avec les problèmes qu'on peut rencontrer, parce que c'est pas évident d'organiser, mais il y a cette demande du public. Ouais.
Donc, si on plante le décor, il va y avoir les participants, que ce soit pour l'expo ou pour les runs. Et il y a le public qui va en avoir plein les yeux et plein les oreilles. Et il y a une incitation aussi à ce que les participants respectent un dress code.
Oui.
Pour être resté dans l'esprit.
Voilà. Là, vraiment. On essaye, c'est pour ça que je parle toujours du mot festival. On essaie d'avoir vraiment le dress code au niveau des pilotes sur l'anneau, d'être assez looké. Même les photographes, on leur demande d'avoir un dress code assez, pas un gilet fluo ou des choses comme ça. Après, pour tout ce qui est à l'intérieur, on est vraiment en immersion dans l'époque. On essaye vraiment, en plus, le site qui est l'abbaye de Clermarais, est vraiment quelque chose d'assez particulier quand on passe les murs de cette ferme qui est de 1800 quelque chose, je ne sais plus. On est vraiment dans un autre monde.
Ouais. Oui, c'est toute une histoire pour l'Audomarois. Et il reste très peu de choses de l'abbaye, mais il y a encore quelque chose de magique par rapport à cette atmosphère qu'il y a avec la ferme, ou l'ancienne ferme de l'abbaye, où ça va se passer. Et donc, si on a, comment dire, on évoquait ce roulage, ça se passe sur quoi? Tu as évoqué un anneau de terre, sur quelle distance, combien de temps aussi?
Voilà, alors c'est pas une question de temps, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a rien du tout, hein, c'est vraiment, on fait ça pour le fun, pour s'amuser. Alors c'est un anneau en terre qui fait 460 mètres qu'on remet en état tous les deux ans, parce que c'est une pâture pour les vaches, hein. Donc on la remet en état tous les deux ans. Et le principe des runs, c'est voilà, il y a la fameuse spin-up avec son drapeau à damier et on part pour deux tours.
Oh oui, rien qu'à voir
en mini-jupe.
Oh,
toujours, elles sont toujours en mini-jupe.
Il faut que tu ailles voir les photos sur le site.
Ça faut voir les photos.
Ouais. Ça vaut le coup. En tous les cas, elle est souple et sportive.
pour être flag girl, faut être sportif. Ouais.
Ça s'appelle comment?
Flag girl.
Fille au drapeau.
C'est vrai.
La fille au drapeau, c'est ça?
C'est ça.
Oui. Il y a énormément de termes en anglophone, parce que c'est aussi l'esprit, des festivals un peu dans l'esprit qu'on peut avoir des festivals USA, quoi.
Oui, de toute façon, on est purement dans une reproduction américaine. Il y a beaucoup d'événements comme ça aux États-Unis. Il y a le trog sur la plage. Côté ouest et côté est, et sur des anneaux en terre, il y en a énormément à l'intérieur du pays. Notamment, il y a une série Harley Davidson, là, les frères, qui était vraiment un peu dans cet esprit, hein, de l'anneau en terre de ces époques 1920-1930.
Dis, avec ce qui s'est passé à Normandy Beach, est-ce que vous avez eu des petits soucis? Peut-être rappeler un peu ce qui s'est passé. Hein,
voilà, aussi. Donc
tu connais la personne qui est décédée aussi.
Oui, je connais très bien en tant qu'organisateur. D'ailleurs, donc Marc qui est décédé lors de la Normandy Beach Race en septembre dernier, dans un dramatique accident, hein, le dimanche matin. La voiture a fait 3 tonneaux et voilà. Donc très difficile car c'est l'organisateur. Nous, on s'est posé beaucoup de questions après sur est-ce qu'on continue après un tel drame. On a décidé de continuer. À ce jour, tous les drapeaux sont au vert au niveau assurance, au niveau déclaration. Tout est OK, donc on continue. Mais ça a été très compliqué. Moi, j'étais sur la piste le dimanche matin. C'est très compliqué. Ouais.
Bon, la différence, c'est que là-bas, ça se passe sur le sable.
Oui.
Et à Clermarais, c'est sur la terre.
Voilà. Donc eux, c'est une ligne droite de 200 mètres. Après, j'ai pas grand-chose à dire sur le fait. L'état du sable ou pas. Je sais pas. Nous, c'est un anneau en terre. Il y a aussi des bosses. On a eu une première édition sous le soleil, on a eu une deuxième édition complètement sous la pluie, où c'était plus de la glissade qu'autre chose. Ça roule vraiment pas vite, c'est pas le but. Oui, puis c'est vraiment pour s'amuser.
Je pense que c'est vraiment exceptionnel ce type d'accident. C'est pas de chance, c'est très très regrettable.
C'est vraiment, ouais.
Mais je pense que dans toute manifestation, je dirais sportive, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque et malheureusement, elle est souvent très très minime, mais on n'est pas à l'abri, je dirais même de glisser dans la boue. Quoi.
Voilà, ouais, ouais, il peut y avoir. On peut avoir un accident en sortant d'ici. Hein, on va toucher du bois. Bon,
mais en tous les cas, voilà, ça n'a pas refroidi les candidats parce que ça a été vite rempli pour les inscriptions.
Oui, oui, on a lancé la communication au mois d'octobre et on avait jusqu'au 31 janvier pour boucler et ça s'est bouclé très très rapidement.
Oui, moi j'avais essayé de demander s'il n'y avait pas une liste d'attente pour les motos. Peut-être que les motos, il n'y avait pas le quota, mais ouais. Tu m'as dit non.
Si, il y a une petite liste d'attente au cas où, les véhicules ne sont pas prêts, ouais. Mais qui est très minime.
Voilà, donc on peut encore éventuellement s'inscrire à condition qu'il y ait un désistement.
Alors, s'inscrire, faut envoyer un petit message et de voir si on peut être encore dans la liste.
Mais... La participation, justement. Qui est demandé pour les visiteurs.
Alors là on est parti sur vraiment, je répète, l'idée du festival, c'est un festival de 3 jours en immersion, donc on privilégie le pass week-end qui est à 45€ l'entrée. Les préventes se passent très bien.
Trois concerts.
Alors il y a 3 concerts par jour, vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. Donc pour l'instant on privilégie ce pass week-end. Mais je pense que d'ici mars, on ouvrira aussi une billetterie. Enfin, on ne l'ouvrira pas avant, mais on dira qu'il y a une billetterie sur place à la journée. Pour l'instant, on essaye de rester en immersion.
Super.
Sur l'exemple des festivals anglais, la Haute Road et Ride, qui fait ça 3 jours. Si on ne prend pas les 3 jours, on ne vient pas. Donc nous, on va essayer d'être un peu plus souple, mais c'est l'idée.
Eh ben, c'est une excellente idée. Et je pense que vraiment, ça va donner envie aux personnes de venir.
Voilà, et juste une petite info, il y a des pilotes en moto femmes cette année.
Oh bah on va venir alors.
je rappelle la date, donc c'est le 12 et 14 juin.
Du 12 au 14 juin,
à Clermarais, pas loin de Saint-Omer.
C'est ça,
c'est proche de tout, Lille, Dunkerque.
Pour info, on en parle dans le calendrier qui quinquou à la page 46. Et si on veut en savoir plus, il y a un site internet.
C'est ça.
The Old Rice, pardon. Je suis du Nord. .com. Voilà, ok. Merci.
C'est bon, on passe un morceau de musique, Patricien, c'est bon ? Ouais, voilà, bah, écoute, impeccable, merci, Johan. Et puis, on se retrouve juste après notre premier morceau de musique, enfin, deuxième, voilà. À tout de suite. We'll be right back.
Let's see your rocking horse ride. Let's see your rocking horse ride. Let's see your rocking horse ride. Let's see your hoochie girl swing now. Let's see you do your thing. Enough to make a grown man cry. Let's see your rocking horse ride. Come on, baby, shake. Shake it one time for me and Kingfish, baby. Yes, sir, yes, sir. Let us see what you're working with, honey. I like that. Come on, let us see your rocking horse show up right.
C'est sur Campus tous les dimanches à partir de 11h. Voilà, après la All Rise de Claire Marais, un petit coup d'œil dans le rétro sur la 50e édition de l'Enduropal qui a eu lieu le week-end dernier, vous savez tous. Hein. Je pense que si celui qui n'est pas au courant. Hein, Philippe.
Bah oui, écoute.
Alors raconte-nous un petit peu cette saison-là, ce qui commence au mois d'octobre, le championnat de CSF.
CSFS, championnat de France des Sables.
Ouais. Voilà.
Donc du coup, oui, ça commence, il y a 5 courses, ça commence par Berck, ensuite Loun, ensuite Osgore, Saint-Léger, si j'ai pas dit de bêtises, et Graillon.
Voilà. Graillon.
Donc voilà. Moi j'ai participé à 3 courses sur les 5, descendre dans le sud c'est toujours un peu plus compliqué. Et donc du coup, voilà, donc ça m'a permis de faire ces 3 courses, Berck, Loun, Graillon. Et donc du coup à ce titre-là, sur ma catégorie qui est la catégorie V2, j'ai été champion de France cette année.
Ça veut dire quoi V2?
Alors V2, on ne va pas faire comme Francis Magnanou qui a présenté lors de la cérémonie des trophées, parce que tu as été monté sur la première marche du podium.
Oui.
Voilà, il a comparé la V2 avec, tu sais, la bombe volante des missiles des nazis, tu sais.
Mais je suis un véritable missile sur la piste.
Mais toi, t'es un missile. Ah, ouais, c'est... Alors, cette catégorie V2, bon, il y a un championnat, donc raconte-nous un peu. C'est pas vétéran, ça
pas... Ouais, non, c'est pas vétéran. En fait, il y a deux catégories aujourd'hui sur les courses, telles que le Touquet et sur le championnat de France. Le V1, qui sont toutes les machines, au-delà des machines qui sont biamortisseurs et cantilevers. Donc, les catégories V2, ce sont les machines qui ont biamortisseurs, donc deux amortisseurs ou cantilevers. Donc ça représente à peu près les machines des années 82, voilà, on est à peu près à la transition des années où là on est passé en mono-amortisseur souvent, la plupart des machines.
Moi j'oserais dire que c'est la vraie catégorie vintage.
Oui, alors...
Finalement, quand on parle vintage, c'est ce moto-là.
Il y a un vrai débat.
Parce que ça, on va en parler. Hein, parce que quand on regarde maintenant le vintage, il y a des fourches. Maxence, il peut peut-être nous en parler aussi. Hein. Tu l'as vu, là ? Tu as été voir un petit peu les vintage ?
Ouais, j'ai été voir.
Et bon, tu vois, les fourches, elles sont plus d'époque, elles sont pas de l'année.
Ah ouais, non, les premiers pilotes ont des fourches de récentes. Ouais.
C'est vrai que moi, ma machine, c'est une KTM 390.
Alors oui, t'as ta moto, 390.
390 de 81. Et donc du coup il y a deux tambours, il y a deux amortisseurs, voilà. Donc elle est full origine, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, bon, après on essaye de bidouiller pour essayer de lui donner un petit peu plus de l'améliorer en tous les cas, mais comme ça se faisait d'ailleurs dans toutes les compétitions à l'époque. Mais effectivement là, cette année, en plus sur le Touquet, on a ouvert aux années 2000. Donc on a des machines aujourd'hui qui arrivent...
Pour le vintage.
Pour le vintage, hein, je parle. Voilà. Et donc du coup, on a des moteurs 4 temps, des machines qui sont... Voilà, de plus en plus proche de ce qu'on en trouve aujourd'hui. Oui, donc effectivement, c'est compliqué en même temps.
Est-ce que tu penses que ce nom vintage, on ne devrait pas changer le nom, faire une course, on devrait l'appeler la course 1 du, du repas le vendredi, la course et la vraie course le dimanche. Hein, parce que moi je vois plus trop de vintage là-dedans dans ces motos, cette catégorie.
Il y a beaucoup de remarques de ce style, effectivement. Les gens, et moi je le vois bien quand je sors de la course, que je traverse la foule avec ma moto, les gens s'arrêtent, ils veulent prendre une photo, ils me disent ah ouais, c'est bien, c'est des vrais vintage, etc. Oui. Maintenant, je suis pas contre qu'il y ait aussi des top pilotes et des gens qui viennent, parce que c'est aussi ce qui fait venir le monde. Alors je pense que tout le monde a raison. Moi j'entends plein aussi de personnes s'exprimer, des pilotes aussi. Hein. Ça va être Tom Padgett, ça va passer par David Villemain, enfin, etc. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres moins. Mais bon, tout le monde a raison en même temps. Enfin, peut-être, c'est, en tous les cas, moi, sur ce que je pointe, et ça au niveau de la Fédé, ils le savent, parce que ça fait quand même 2 ans là que je râle, c'est qu'au moins la catégorie V2 soit respectée. C'est-à-dire que informatiquement, il y a des gens qui s'inscrivaient sur la catégorie, mais qui étaient sur des motos V1. Et donc, effectivement, si on avait une moto de 96 en ayant en plus 19 ans, moi j'en ai 63 quand même, donc
cette catégorie, il n'y a pas que des
vétérans,
des gens qui ont plus de 60 ans, il y a des jeunes aussi.
Ah oui, il y a des gamins de 20 ans quoi. Cette moto là et ce pilote là étaient dans la même catégorie que moi, donc effectivement si on fait une course, on respecte les règles. Je veux dire, sur la route, hein, si je dépasse le 90, je me fais sanctionner. Donc, je veux dire, ça me semble important de respecter. Et d'ailleurs, ça redonnera de la valeur. Je pense qu'il y a une désertification, c'est pas le terme. Les gens désertent un petit peu ces courses. Sur le championnat, quasiment plus seul.
Il y avait combien de participants dans cette catégorie?
Là, sur le Touquet, 755.
Oui. Dans la V2, dans la catégorie V2.
Ah, dans ma catégorie V2, oui, approximativement une vingtaine.
D'accord.
Donc ça fait plus beaucoup, hein. Surtout qu'avec la casse, après on est plus nombreux, hein, sur le podium. Enfin, ou sur le...
Et puis ces gens n'ont pas fait forcément les 4 courses.
Non, puisque du coup le Touquet est à part du championnat. Ouais.
Sinon, moi la Miche, je propose une solution, c'est qu'on fasse 3 manifestations.
Parce qu'ils cherchent à faire la semaine complète apparemment au Touquet, hein, à faire une back week, tu sais, un peu comme en Amérique, tu sais.
Faire le vintage.
Oui. Mais le vrai vintage.
Le vrai vintage. Voilà. La V2.
Alors, on appelle maintenant le vintage d'actuel. Bon, parce que moi, je pense que c'est là. Ça n'a plus trop d'intérêt. Oui, et puis la course du dimanche.
Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. On va appeler le maire du Touquet.
Oui, on va appeler. Ouais.
C'est peut-être David Hockey aussi qu'il faut appeler. Mais,
peut-être aussi.
Ouais. Après, je pense que les gens sont à la recherche quand même. Moi, je me rappelle, je suis un vieux motard, mais un jeune pilote. J'ai démarré avec l'enduro en 2018. J'ai cassé 4 fois quand même. Hein, les quatre saisons, j'ai cassé. C'était avec un 2,5 à ce moment-là. C'est pour ça que je suis passé en 3,90. Mais les gens étaient amateurs quand il y avait les deux manches. C'est-à-dire deux manches d'une demi-heure avec un intermanche où le public pouvait passer à travers le paddock. Ouais. Et là, il y avait un échange avec le public. Les gens aimaient ça. Donc je trouve qu'il faudrait revenir peut-être à quelque chose qui serait similaire, alors peut-être justement une course un petit peu à part, parce que c'est beau l'exposition éphémère, de voir des belles motos sur des béquilles, je trouve ça bien, mais en même temps, les motos qui roulent, c'est un peu comme aujourd'hui sur la road race, on aime voir des vieux véhicules, les années 50, là, enfin voilà, c'est ça, et puis là, il y a l'odeur, il y a le bruit, il y a une ambiance.
Oui, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose,
le marteau piqueur.
Il y a une ambiance, donc je pense qu'il faudrait essayer de travailler sur cette question-là, parce que je pense que les gens sont en demande.
Il y a des soucis, hein, avec une moto comme ça, parce que c'est des motos des années 80, tu m'as dit.
Moi, 81, oui.
80. Le problème, c'est qu'il faut aller trouver des pièces après, hein, parce que ça, tu vas pas chez le concessionnaire acheter un embrayage ou un piston.
Alors, il est vrai que là, depuis, moi, je me suis mis réellement, j'ai racheté ces motos-là en 2018, j'ai vu... petit à petit la difficulté de trouver des pièces au fur et à mesure des années, les stocks s'épuisent. Bon, après il faut bidouiller, et heureusement que là je suis bien aidé, parce que j'ai des copains comme le Manu Couteau, Michel Samin, qui sont là, qui ont d'ailleurs, alors ma deuxième déception cette année, c'est d'avoir cassé au Touquet, évidemment, mais de ne pas avoir pu rouler, vu rouler plutôt Kizan Derven, parce qu'il était présent, mais bon.
Alors là, il y a un petit problème de santé, hein.
Ouais, enfin bon, c'était.
C'est un peu l'organisation Touquet, c'est un petit peu quand même.
Ouais, il y a eu une erreur.
Il y a quelque chose qui ne va pas.
Il a quand même été ausculté par un médecin.
Hein. Alors ils n'avaient pas prévu. Il est arrivé donc 3 heures avant la course.
Hein. Bah, il est arrivé dans la veille.
Il est arrivé.
Au contrôle technique. Ah oui, il est arrivé.
Et il n'avait pas de licence. Et pour avoir la licence, il faut un certificat médical. Ouais,
alors, apparemment, le dossier avait été oublié à Paris.
Ils ont dû chercher un médecin en urgence pour qu'il puisse faire un bilan médical pour savoir si effectivement il pouvait participer à la course.
Ouais. Et donc
et finalement non, ils ont trouvé quelque chose au cœur.
Le médecin a trouvé quelque chose au cœur et donc du coup a refusé de faire le certificat médical. Voilà. Donc du coup pas de licence, donc du coup pas de course. Voilà. Donc il a fait juste le tour à la délégende.
Oui, délégende.
Ce qui était bien, mais moi, enfin voilà, la machine de 81, je crois que il a démarré sur le Touquet en 80, il a gagné en 82, qu'ils ont d'Hervène. Je me serais fait un plaisir de pouvoir rouler ensemble avec lui.
Bah oui, et en plus, vous
j'ai pas le même niveau.
Vous avez
là,
les motos pour la catégorie V2.
Oui, exactement. Ouais. Ouais. Donc lui, cette moto était préparée aussi par les Manu Couteau et Michel Samin. Ouais. Ils ont bossé comme des fous pendant 15 jours pour pouvoir remonter cette moto. Ouais. Et puis bon, voilà, un peu déçu, effectivement.
Il a gagné 5 fois en suivant.
Oui, 5 fois.
82 à 86.
À la suite. Hein.
C'est le deuxième recordman après Arnaud de Mester, vainqueur.
Il est bizarre, ce pilote, quand même. J'ai vu, je sais pas, il est pas très
loquace, peut-être.
Mobile, il est pas, je sais pas, il est.
Après, il maîtrise pas.
Qu'il vient à l'homme et ça le fait.
Il parle hollandais, il comprenait pas les blagues que tu lui disais, c'est pour ça qu'il a pas rigolé.
Je sais pas,
c'est un hollandais.
Non, mais j'ai assisté à une interview, là, et puis que voilà. Bon, enfin, bref. Dis, Philippe, t'es monté sur la première marche du podium. Mm. Je t'ai vu.
Oui.
Hein, t'as eu une médaille.
Avec mon petit-fils, d'ailleurs. Hein, c'est sympa de partager ça, ouais.
Oui, j'ai vu. T'as une médaille.
Oui.
Une grosse médaille. Hein. Elles sont grosses. Médailles.
C'est pas une médaille en chocolat.
Ah non, c'est pas une médaille. Donc grosse. Hein. Mais est-ce que t'as eu un chèque?
Non, j'ai pas eu de chèque. Non.
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 Pourtant, ça doit te coûter la blinde d'aller là-bas dans le sud. Ça te coûte combien, là? Il y a un budget, là?
Il n'y a pas que le déplacement, il y a aussi les pièces.
Les pièces et tout ça.
Ouais, ça commence à coûter.
Zéro argent.
Ouais, bah oui.
Écoute, tu mens pas là, hein?
Ah non, je mens pas, non.
Non, parce qu'on m'a dit que t'avais eu 10 000 balles.
Non, c'est même Florian Mio, il réclame une prime alors. Tu vois,
bah oui.
Donc, à mon avis, je suis pas prêt d'avoir la prime, moi.
Bon, d'accord, bah écoute, voilà. Donc une grosse médaille. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ouais, bon. Je me demande si c'est pas la médaille de l'année dernière, parce que ça fait 2 ans que c'est les 50 ans. C'est 3 ans que c'est les 50 ans. Ils ont utilisé les stocks. Je l'ai reconnu, la médaille, l'année dernière.
Moi, je, franchement, au-delà de moi, parce que je ne me reconnais pas comme un pilote exceptionnel, loin de là. Hein, moi, je suis un tout pilote amateur. Je suis, comme je dis encore tout à l'heure, un vieux motard, un jeune pilote. Et donc, du coup, le fait d'avoir effectivement une reconnaissance, et surtout pour le travail qui est fait auprès de ces machines, moi c'est ça, c'est l'amour de la mécanique, c'est la passion,
c'est
de la mécanique.
Trouver, comme on dit, et donc, réglages,
c'est ça,
et voilà,
c'est la mise en valeur. Et c'est pour ça que je râle pour l'histoire de la catégorie, parce que je trouve qu'on doit là. Et j'ai rien contre les autres.
C'est carbu ou injection? C'est carbu.
À carbu, oui.
Alors, carbu, c'est des problèmes pour régler la carburation.
Les bings,
il suffit que l'hydrométrie change et tout ça. La température, et voilà.
Mais là, ce qui a lâché, d'ailleurs, c'est pas l'histoire de carburation, c'est apparemment un roulement d'hydroque.
Et pour terminer, on était ensemble. Vous avez vu, le maire du Touquet a participé à cette 50e édition. Ouais. Hein. Il a fait un tour.
Tout à fait.
Il
n'a
jamais fait de moto de sa vie.
Non, mais très bien. Il
a fait un tour au chapeau.
Tout à fait, exactement.
Ouais. Comme moi, j'ai fait un tour. Voilà, <c'est... rire> Bon, voilà, allez. Merci, Philippe. Écoute, tu me rajoutes, on a Maxence après. Hein.
Ouais,
on est toujours dans le même sujet. Hein. Alors, on passe à un morceau de musique et on se retrouve juste après.
I'm getting high on the hog.
Est-ce que tu as déjà participé à la course du dimanche, les 3 heures ?
Non.
Jamais ?
Jamais. Bon, fait peut-être qu'un jour, je sais, hein, c'est vrai que j'ai encore un peu de temps, peut-être comme je vois Paul Barbara, 71 ans.
Ah oui, Barbara, vous avez vu. Hein.
Qui roule oui. encore. Ben, oui. C'est vrai que...
Il a eu froid, hein, on a vu. Ouais. Voilà.
Mais voilà. Justement, Maxence, pour faire le lien, oui. Moi je tire mon chapeau quand même au dimanche, hein, parce que là, voilà. 3 heures, on a une météo qui est catastrophe.
On va passer donc la parole à Maxence, hein, qui lui a fait 6 tours et a fait les 3 heures. Hein. Dans une tempête, c'était une tempête.
C'était des conditions extrêmes.
Au début, c'était de la neige, et après la pluie, il faisait froid. Mm. Voilà. Et puis, alors comment ça s'est passé ?
Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe Fuel Motors, avec qui, sans eux, j'aurais pas pu faire l'enduro, car c'est la société dans laquelle je travaille, où on développe les marques Cov, CF Moto, Zontes, et notamment de la BMW d'occasion. Et en fait, pour la petite histoire... C'est quand on a reçu les motos en fin d'année Cov où j'ai dit à Max en rigolant on va pouvoir faire l'enduro du Touquet.
Ah, c'était rigolant.
Ouais.
C'est marrant, c'est toujours comme ça.
Ouais. Hein.
C'est toujours des idées à la con qui arrivent.
Et le lendemain matin, il est arrivé au comptoir et il m'a dit ouais, ça serait pas mal qu'on fasse l'enduro pour faire un coup de pub et montrer la fiabilité des motos qui arrivent sur le marché.
Et t'avais un peu d'expérience du sable quand même.
Ouais, en fait, moi j'ai commencé la moto en 2008. Par contre, j'ai arrêté, ça faisait 4 ans que j'avais pas roulé. Donc j'ai roulé un mois et demi avant la course de l'enduro.
T'as roulé où ?
J'ai roulé une fois à Condé-sur-Esco pour prendre en main la moto.
Ça, c'est de la terre, ça.
C'est un peu terre, sable, terre.
Ouais, mélange. Ouais.
Pour la prendre en main, et après j'ai été roulé 4 fois à Loun avant la course. Quoi.
Alors on nous dit qu'à Loun c'est pas le même sable, parce qu'il y a un peu de terre avec et que ça correspond pas à celui du Touquet.
Non, c'est beaucoup plus facile de rouler au Touquet qu'à Loun. C'est moins dur physiquement au Touquet, ouais.
Ah ouais ?
Ouais.
Parce que le sable est
plus fin, ouais.
Plus fin. Enfin, en même temps, cette année, comme il était vachement mouillé, ça devait être compliqué.
Ouais, mais franchement, moins dur que Loun. Ouais.
Ah ouais, donc ouais. Quand tu t'entraînes à Loun, après, t'es
nickel. T'es opérationnel, ouais.
Et donc, ta moto, c'était une 450 rallye, c'est ça ?
Ouais, donc c'est une 450 rallye qui est plus à la base fait pour le Dakar ou l'Africa Eco Race, ce type de course. Donc on a dû la modifier, l'adapter pour faire l'enduro du Touquet et passer au contrôle technique. Parce qu'il faut savoir que la moto elle a 30 litres de réservoir et on est limité à 12 litres pour l'enduro du Touquet.
Donc tu as changé le réservoir alors, c'est ça non ?
Non, c'est comparti en 3 réservoirs, donc on a pu débrancher des réservoirs. et faire en sorte qu'on a 12 litres et aussi faire en sorte qu'on n'a qu'une entrée de réservoir parce que au championnat de France on a le droit qu'à une entrée de réservoir pour faire le plein.
Et il fallait aussi alléger la moto parce que d'origine elle fait plus 150 kilos je crois, un truc comme ça.
Ouais, 150 avec 15 litres d'essence. Voilà. Ouais.
Et donc vous avez essayé de l'alléger pour, pour que ce soit plus pratique quoi, tout simplement.
Ouais, carrément on a enlevé bloc ABS, la tête de fourche à l'avant, compteur, les cibles ABS.
Voilà. Et d'origine, elle fait 40 chevaux, je ne sais plus.
42 chevaux.
42 chevaux.
Et en fait, on a mis un kit performance dessus qui contient un échappement, un boîtier ECU et une boîte à air rallye.
Avec ça, tu passes à plus de 50 chevaux.
56 chevaux, ouais.
56 chevaux.
Et on a aussi également mis une pompe à eau en alu. Car elle est en plastique, l'hélice est en plastique.
Maxence, Kov, c'est un constructeur chinois.
Ouais, c'est ça.
Ça prouve la fiabilité de ces motos. Parce que j'ai vu que Ducati avait engagé une moto. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Hein. D'ailleurs, c'est pas fini. Hein.
Ils sont dans le développement. Ouais,
mais...
Par contre, les triomphes sont bien placés.
Les triomphes, oui.
Enfin, Antoine Méo fait quand même une belle course. Hein, avec la Ducati.
Il est parti dernier et est remonté 21. Ouais.
1200 pilotes, il remonte.
Est-ce que comment ça s'est passé la course? Parce que t'as fait 6 tours, t'es classé combien?
Je suis classé 727e.
Ah oui.
Avec 6 tours.
Ouais. T'es parti combien?
J'avais le numéro 1269.
Ah oui, quand même.
Donc je suis parti dans le fond. J'ai pas mal doublé dans la rue. Et au premier tour, je suis arrivé 700, voire 600.
Ça a été sur la plage, là, parce qu'il y avait comme de la. Il y avait des
ça bougeait pas mal, mais ça allait.
Raconte-moi un petit peu comment tu pilotes, là. Est-ce que tu voyais ce qui se passait devant toi?
Ouais. Non, la visibilité était bonne.
C'est ça qui est toujours un peu dangereux. Hein. Y a un pilote qui tombe et qui chute, et puis toi, tu étais juste derrière, et tu peux pas l'éviter, ou tu le vois pas même. Hein.
Ouais. Bah, sur la ligne droite, j'ai pas vu de chute. Après, c'est vrai que dans la partie technique, il y a beaucoup de chutes. C'était un peu la guerre avec les conditions et il faut éviter. Après, par moment, on tombe à cause d'autres pilotes, par moment, à cause d'erreurs de pilotage.
Ouais.
Et ce qui était assez dur dans ce touquet, pour moi, c'est de relever la moto quand je tombais. Comme elle est plus lourde que les autres, et les autres motos, en général, font entre 100 et 110 kilos. Moi, je pense qu'elle en faisait encore 130-140, quoi. Donc,
ah oui, d'accord.
On la relève pas comme ça, quoi.
Tu parlais de visibilité, la Mich. Oui. Comment s'appelle le système, là?
Le roll-off, ouais.
Le roll-off,
c'est interdit maintenant.
C'est interdit, ouais.
Le roll-off, c'est-à-dire que tu t'appuies, enfin, tu tires sur les lunettes, c'est
ouais,
ça?
C'est ça.
Et ça te met un film.
Un film qui change, qui s'enroule et... Ouais.
Et ça dure 3 heures, ça? Non.
Non, non.
Non.
T'es obligé de t'arrêter régulièrement.
Moi, justement, j'ai mal géré les lunettes.
Il y a eu beaucoup de problèmes de lunettes. Hein, j'ai vu que.
Ah, c'était à cause du sable qui collait aussi.
J'ai fait 3 tours avec la même paire. Après, j'ai dû l'enlever. Je suis rentré au stand, changer de lunettes. Et j'ai dû re-rentrer au 4e tour parce que le fil était bloqué, quoi. Et du coup, j'ai fini avec une 3e paire de lunettes, mais à la fin, j'ai dû l'enlever aussi. Ouais.
Et donc, tu es roulé comme ça, sans lunettes?
Ouais.
Avec le sable?
Ouais. Bah, j'ai pas fait la ligne droite sans lunettes, mais ouais, ça pique. Mais bon, ça va encore.
C'est pour ça que tu as les yeux rouges encore.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah non, on pensait que tu avais fait la bringuière, mais. Ah non, c'est encore le truc. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu penses du vainqueur? Alors, d'abord, Jérémy Hockey.
Ouais.
Ouais, il a fait quand même 2 tours.
Il a fait une belle course
au départ.
Il y a eu des soucis apparemment dans le radiateur.
Et Tom Kellett,
Todd Kellett, c'est
un extraterrestre.
Surhumain.
Parce que t'as vu au bout de 3 heures, je trouvais qu'il était encore frais. Hein, alors que les autres, ils étaient un peu rassés. Hein,
c'est clair, mais quand je vois comment il roule et qu'il me double, je me demande comment il fait. Quoi.
Ouais.
C'est...
Bah, il s'entraîne. Hein.
Ouais, c'est son métier après.
C'est son boulot. Hein,
c'est ça.
Ouais, donc là, apparemment, il y a plein de discussions hein, sur les réseaux sociaux. Hein. L'année prochaine, on va le retrouver chez Honda, apparemment.
Apparemment. Ouais, hein. De ce qui se dit. Ouais.
Pas chez Kov, non.
Et pas chez Kov.
Pas encore.
Pas encore.
Peut-être.
Les Chinois, ils veulent pas encore prendre de Tom Kellett. hein.
Peut-être Nice Eric qui viendra peut-être faire l'enduro. Ouais. On ne sait pas. Pilote du Dakar. Mais après, pour moi, Todd, il y a plus de raisons de rester chez Yamaha que d'aller chez Honda. Quoi. Il gagne avec Yamaha, donc pourquoi changer?
Donc toi, tu t'as fait que le Touquet, t'as pas fait le championnat?
Non, j'ai fait que le Touquet, ouais. Et j'ai roulé un mois et demi pour m'entraîner. Ouais.
Et l'année prochaine, enfin cette année, est-ce que tu as envie de changer le championnat total?
Pas le championnat.
Les six courses, je crois.
C'est un budget, les six courses.
Ah, c'est un budget, oui.
Refaire le Touquet, ouais, pour
t'as pas, t'as pas un sponsor qui pourrait.
Si, un sponsor, Full Motors.
Je sais pas s'il va. Ils vont accepter de.
Allons, quand même.
On va lui en parler.
Bon, voilà.
Sinon, ouais, tu as envie de continuer la moto, j'imagine.
Enfin, ouais. J'ai envie de reprendre. Là, ça m'a donné goût à reprendre et faire un peu de terre et du sable. Ouais.
Donc du motocross aussi, alors.
Ouais.
À Condé, par exemple.
Ouais, à Condé. Ouais. Surtout les terrains du Nord, Cassel, tout ça.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non, mais juste dire que la Cove, c'était une belle expérience et que c'est une moto où on peut rouler sur la route. Comme faire l'enduro du Touquet, quoi.
Bon, c'est tout
ce que j'ai ajouté. Ouais.
Voilà. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller l'essayer.
Ouais,
et
aller c'est chez Fuel Motors et toute la gamme.
Mais moi, je ne sais pas où c'est, Fuel Motors.
C'est à Seclin.
C'est à Seclin.
À Seclin, et à savoir qu'on déménage dans un nouveau
Seclin,
local.
Attends, Seclin, c'est grand.
Il faudra l'essayer à Douai, au salon.
Douai. Mais Philippe. T'es excellent, toi, à la radio.
Écoute, je m'améliore.
Effectivement, tu pourras peut-être l'essayer à Douai avec Fabrice, l'organisateur.
Je pense qu'elle sera laissée, cette moto.
Que l'on va avoir juste après notre morceau de musique. N'est-ce pas, Fabrice?
À tout de suite.
Bravo.
It's about time, Lord, that I'm leaving. I gotta move up and down the road. Well, it's time now that I'm leaving. I gotta move up and down the road. Well, I don't know where I'm heading. Well, I don't know. Back, baby. Lord, I ain't coming back for sure. Well, I really just thought about it. I said just a little while ago. Really thought about it. I said just a little while ago. Well, I don't know where I'm heading. Lord, I don't know where I've been. I ain't coming back now. Lord, I ain't coming back for sure. Been talking about my restless heart, a wandering spirit I can't control. Talking about my restless heart, a wandering spirit I can't control. It doesn't matter where I'm heading. It doesn't matter where I've been.
enfin un vrai salon de la moto. Beaucoup de marques, beau salon, des véhicules à l'essai, un beau show. Voilà, plus de 37 000 visiteurs l'année dernière, Fabrice.
Oui, tout à fait.
Je lis le ouais. dossier de presse. Hein.
Je précise que ce sera simplement la troisième édition, donc on se positionne quand même plutôt pas mal et on va apporter beaucoup de nouveautés sur cette année.
Donc plus de 40 marques présentées.
40 marques présentes.
Hein.
40 marques présentes.
500 motos.
500 motos. Un centre d'essai également. Toujours intéressant d'essayer les motos qu'on a envie d'acquérir. Et puis des shows, effectivement, avec un show. Je ne sais pas si on peut en parler, mais un show vedette avec la présence de Sarah Lesito à Douai.
Alors c'est qui cette Sarah ?
Alors cette Sarah, on dit d'elle qu'elle est la championne du monde de la discipline du stunt. Elle fait très peu d'apparitions finalement dans les salons. Elle est plutôt sur des doublures de vedettes aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui est très très populaire, qui a énormément de, est très très suivi et elle est surtout très douée dans ce qu'elle fait. Et c'est une femme, donc c'est assez fantastique ce qu'elle fait.
Une jeune femme en plus. Hein.
Une jeune femme, tout à fait. Elle fait des choses que les autres ne font pas.
Et bah d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube où elle est en train de piéger un moniteur d'auto-école. Oui. Et donc au début, elle fait semblant de ne pas savoir. Elle calme même avec la moto. Et puis voilà, donc le mec essaie de lui expliquer. Et puis à la fin, elle s'amuse à faire des roues arrière où elle frotte la plaque carrément. Hein,
C'est quelqu'un qui, en plus de ça, on a également la piste des CRS qui va être présente en face de sa piste de show. Et elle adore prendre les motos de nos amis de la maréchaussée pour faire du...
En fait, c'est une coquine en fait.
Elle est joueuse.
C'est ça.
Mais c'est impressionnant, par exemple, quand elle roule, elle met la béquille et elle arrête la moto et elle saute au-dessus la moto et la moto.
Elle met la béquille, elle se pose sur la béquille.
Ouais. Ouais,
elle est d'une agilité démoniaque. Hein.
Ouais. C'est d'accord, bah, écoute, on est impatients de
l'avoir.
Hein.
Elle fera deux shows samedi, deux shows dimanche et également une belle séance de dédicace chez notre partenaire Daffy.
D'accord, très bien. Un road trip zone.
Ouais, alors ça, on a décidé de mettre en valeur justement toute cette partie de la moto, c'est-à-dire en fait des voyagistes vraiment spécialisés dans le voyage moto. Donc on a une dizaine de voyagistes qui seront présents sur un espace où on pourra découvrir effectivement aussi des conseils, des magazines ou autres. Un espace qui va vraiment valoriser tout ce qui est road trip parce que c'est vraiment aujourd'hui une tendance très forte au niveau de la moto.
Et il y a même 1000 euros à gagner.
Oui, 1000 balles à gagner.
Ouais, tout à fait. Ah, en fait. Il y aura un tirage au sort aussi sur la personne qui gagnera pourra bénéficier de ces 1000 euros pour son voyage, pour son road trip.
Alors il n'y aura pas que ça aussi en expo, il y a aussi la custom culture.
Ouais, alors ça c'est une nouveauté qu'on voulait vraiment mettre en place, toujours un peu en prenant modestement un exemple sur nos amis de Lyon, c'est-à-dire qu'en fait ils ont un espace à Lyon dédié à la custom culture et donc on a voulu ramener ce monde finalement au salon de la moto de Douai, donc on va vraiment avoir tout un espace avec des motos
préparées, customisées,
par justement des gens qui font partie de cette culture.
Il n'y a pas que de la moto.
C'est un art de vivre la custom culture.
Il a proposé à Philippe de venir avec sa moto, c'est la custom culture, c'est une culture lui aussi, tu sais, dans son genre.
Mais s'il veut venir, il est bienvenu, hein, pas de souci. Hein.
Non, moi j'imaginais plutôt des bikers, quoi, si tu veux, des machines préparées. C'est un peu ça, non?
Il y aura des préparateurs, on aura des gens qui vont faire beaucoup de peinture, des choses comme ça. Enfin, oui. C'est tout ce qui touche à...
Un tatoueur, j'imagine.
Voilà. Et puis, il y aura un tatoueur et il y aura bien sûr aussi toute une ambiance autour de la custom culture. Donc, voilà.
Et tu parlais du Salon de Lyon tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a aussi des expositions comme par exemple les combinaisons de motos.
Ça c'est exceptionnel, on aura 80 combinaisons de pilotes chevronnés, de pilotes qui ont été champions du monde, champions d'Europe, qui seront effectivement en expo à Douai. En rentrant dans le salon, on aura la vision sur ces 80 combinaisons, c'est vraiment magnifique. Hein. Ça nous plaît vraiment de mettre en valeur ce type d'expo, c'est pas des choses qu'on peut voir partout, donc voilà, ça nous fait vraiment plaisir.
Et puis le Laverda aussi, le Laverda Club.
Le Laverda Club qui sera là avec des machines extraordinaires. On aura également le Joe Bartim. C'est une personne qui aussi est allée à Lyon il y a quelques années, qui fait une collection extraordinaire de
Marc
de figurines.
Moulet, c'est ouais, ça, Marc Moulet.
Voilà, c'est ça. Une collection de figurines.
Il est fan. Il est fan lui. Hein.
Ah, il est fan, ouais.
Ça doit prendre de la place chez lui quand même. Hein. Et tu sais quand tu nous avais dit que c'est... Non, tu nous as pas donné la date.
Non, si c'est, 14, non c'est le 14-15 mars. Voilà, donc à Douai, les horaires habituels, 19 000 mètres carrés de dédiés complètement à la moto. Voilà, moi je vous dis, venez nombreux. Le prix d'entrée se ouais. situe entre 8 et 11 euros suivant la catégorie dont vous faites partie. Donc c'est par rapport à ce qu'il y a à découvrir. Franchement, ça en vaut vraiment la peine.
On a également. Régler le problème des entrées parce que la queue parce qu'il y a eu beaucoup de
la première année on a réglé ce problème l'année dernière donc là les préventes sont déjà en place donc automatiquement on peut prendre son billet avant. Il y a possibilité aussi de flasher des QR codes en rentrant pour éviter de faire la queue, donc tout ça ça a été mis en place. Après
des coupe-fils, c'est ça, c'est comme des
coupe-fils, ouais, coupe-fils. Bon, ouais. Après à l'heure de pointe, bon, on peut attendre un petit peu, mais ça reste tout à fait
t'as augmenté aussi le nombre de caisses, je crois.
On a augmenté le nombre de caisses, au niveau de la sécurité pareil, on a fait gardienner, on a un parking dédié à la moto. C'est quand même un salon de la moto, donc j'estime qu'il faut quand même déjà avoir un parking pour les motards. Parking qui est gardé également parce que
qui est gratuit
et qui est gratuit tout à fait, ouais.
Et aussi pour les voitures, normalement vous avez aménagé un peu.
Voiture, c'est un peu plus loin, mais priorité aux motos.
Parce que
moto.
C'était les principales critiques hein, la première fois, le parking qui n'était pas forcément accessible, l'attente aux caisses, et puis aussi la restauration, tu te souviens ?
Alors oui, la restauration, bah, ça, on avait déjà amélioré les choses déjà l'année dernière avec un espace food court hyper qualitatif en extérieur, donc là, on réitère avec un peu plus de choix. Il y aura des bonnes bières aussi à consommer avec modération, déguster sur place. Et donc,
non, on ne voit pas de bière. Mais...
Également, donc ça, également, ce système de food court, également avec le bar du motard à l'intérieur, donc ça a vraiment, on a de quoi se restaurer sans faire trop la queue, bien manger. Je précise aussi pour un prix, ça c'est aussi notre de la qualité, mais pour un prix tout à fait raisonnable.
C'est vrai. Et on va aussi avoir des écrivains.
Exactement. Ça c'était l'idée de la fois dernière. On avait parlé avec Bruno Gillet quand on l'a interviewé. Il a dit moi j'aimerais bien remonter dans le Nord. Vous avez pas mal de clubs, c'est actif. On a même pu ça sur Paris et on remonterait et on ferait des dédicaces de bouquins. Donc on en a parlé un petit peu. Et puis tu m'as dit l'occasion rêvée, ce serait le salon de la moto. Et c'est vrai qu'à Lyon il y a aussi toute une partie édition, publication. Et là, du coup, on va s'arranger. Il va venir et puis il pourra dédicacer les bouquins qu'il a fait. Et comme c'est très bien avec les 80 combinaisons et tout ça, parce que c'est quand même un témoin de la compétition moto. Donc, tu vois, de l'époque du cheval de fer jusque Zarco et la ferme, enfin et Tech 3 aussi, hein, vu qu'il connaît tous ces gens-là. Donc je pense que ça va être pas mal. Et je trouve que ça c'est un truc à développer un petit peu peut-être. Voilà. Les éditions, les bouquins. Je parle du motard lecteur après tout. Oui.
et donc, je sais pas, on peut ajouter quelque chose.
Moi je dirais, il y a une moto à gagner.
Il y a une moto à gagner.
Il y a une moto à gagner pour les grands, forcément. Donc on a un choix de moto assez important. Et donc bien sûr, il y a une moto à gagner. Donc les gens choisissent en plus la moto qu'ils peuvent gagner. Ils votent pour une moto finalement. Également en partenaire avec Kikinko, bien évidemment, un mini quad à gagner lors d'un concours de dessin pendant les deux jours. Donc c'est plutôt sympa.
C'est réservé aux enfants, hein, le concours de dessin.
Non, mais la moto, je peux jouer, moi.
Il faut un ticket quad. D'entrée.
Si je gagne.
Si t'achètes ta place.
Mais alors, tu sais que t'es pas obligé de l'acheter parce que, enfin, je parle aux auditeurs bien sûr, parce que Fabrice a été sympa et il nous offre des places à vous faire gagner, chers auditeurs. Donc il suffit d'appeler Amish. Vas-y, rappelle ton numéro.
06 11 25 02 57.
Voilà, vous l'appelez d'ici.
On a plusieurs entrées à vous offrir, chers auditrices et auditeurs. Voilà, et c'est pour vous. Voilà. Donc je rappelle le numéro de téléphone 06 11 25 02 57.
Vous laissez votre nom et vos coordonnées, il vous rappellera parce qu'il risque d'être débordé. Ouais.
Bon, Fabrice, c'est bon ?
Parfait,
merci. Le prix d'entrée, hein, j'ai regardé, il y a plusieurs prix. Le tout public, c'est 11 euros.
De 7 à 11 euros, suivant la catégorie.
On fait
partie quand même des salons les moins chers de France. Les horaires, 10h, 20h le samedi, 10h, 18h le dimanche.
Et gratuit pour les moins de 12 ans.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Allez, après on passe un morceau de musique et après on enchaîne avec Yves sur l'aventure de, des frères. Allez, juste après le morceau de musique, à tout de suite, restez avec
J'étais dans ton truc. Ouais. Yves, raconte-nous la fin de cette histoire là, des frères Onivar. Omidvar.
Onivar.
Oui.
Il y a un D, Omidvar.
Donc je vous rappelle un petit peu le bouquin. Donc c'est les aventures des frères Omidvar qui ont fait un tour du monde en moto, en matchless à l'époque, parce que c'était ce qui était le plus commode. Ils sont partis en 54, ils sont revenus en 60. À la rencontre des peuples premiers, ils sont partis avec des petits appareils photo, des trucs comme ça. Ils ont acheté des caméras d'occasion. En Australie, ils sont passés par le Japon, l'Alaska, l'Amazonie, l'Amérique du Sud, ils reviennent, ils repassent par l'Europe, ils arrivent à Paris, Paris, ils rencontrent, sont des gens qui n'avaient aucun, enfin, bonne éducation, mais pas de complexe hein, non plus. Et ils rencontrent les gens de chez Citroën et ils se disent, ils leur demandent s'ils pourraient avoir une voiture. Citroën, qui avait fait tous les grands raids un petit peu début de siècle, la croisière jaune, c'est Renault, la croisière jaune. Mais bon, ils leur ont filé une. Ils ont été un peu pingres quand même, ils ont eu deux chevaux Citroën camionnette. Il laisse une moto sur Paris, il rentre en Iran et le temps d'être accueilli, d'être célébré dans leur pays comme des héros, quoi, quelque part, ils restent là 3 mois et disent bah, on s'en va parce qu'on n'a pas fini, on s'en va en Afrique. Voilà. Donc ils repartent en Afrique en deux chevaux Citroën et là il y a toute. Il y a une façon dont c'est écrit, c'est au moment en 1960, c'est en pleine décolonisation. Et donc l'Afrique, ben, ça bouge beaucoup, c'est pas forcément évident. Et on a ce décalage un petit peu, ce pas de côté, qui est dû à leur origine. En fin de compte, ce sont des Iraniens, l'Iran est indépendant depuis pas trop longtemps. Ils sentent bien qu'il y a tous les intérêts des Américains, de tous les Occidentaux sur le pétrole iranien, tout ça, mais ils ont ils sont musulmans, mais ils ont une culture, une éducation occidentale, ils ont fait des études, et ils ont ce décalage par rapport à nous, ce qu'on peut avoir, et ils ont aussi, dans certains cas, et ça leur facilite aussi le passage, quoi, parce qu'en pleine décolonisation, ils ne sont pas colonisateurs, quelque part. Donc c'est plus facile pour eux d'avancer et dans bien des cas ça leur sauve la mise quoi. Donc ils s'en vont, ils commencent par l'Arabie, ils arrivent au Koweït, ils montrent aux étudiants koweïtiens, on peut imaginer, bon il n'y avait que des garçons, tiens, habillés tradition et tout ça, ils leur montrent les films sur les peuples premiers. L'université, les recteurs de l'université leur permet de rencontrer le roi du Koweït, qui, bon, ils s'en vont avec la bénédiction pour traverser le désert. Ils vont le désert en Arabie Saoudite, la direction la Mecque, et puis en Arabie Saoudite avec la deux chevaux, ils vont se retrouver en pleine tempête à un moment, ils ont vu leur mort arriver, quoi. Donc la deux chevaux complètement sablés, presque plus d'essence. Et ils doivent leur survie à une caravane de chameliers, parce qu'il y avait encore des caravanes de chameliers à l'époque qui passent, et donc qui les sauvent carrément, et qui sont même à un moment en cours d'essence obligés de faire tracter la deux chevaux par les dromadaires jusqu'à la prochaine oasis pour repartir. Ils arrivent donc à la Mecque, et à la Mecque étant musulmans, ils arrivent à obtenir des autorisations pour filmer le pèlerinage de la Mecque et la Kaaba, et donc on peut encore voir tous ces films hein, sur l'Afrique, sur la Mecque et tout ça, et c'est encore visible sur internet, et donc ils arrivent en faisant le pèlerinage eux-mêmes à filmer de l'intérieur ce pèlerinage de la Mecque en 1960, un moment où bah, tout occidental ne pouvait pas rentrer quoi. Donc c'était encore bon, voilà, c'est complètement fermé, et ils passent en Afrique. Et en Afrique, ils vont descendre sur. Ils vont rejoindre le Soudan, la vallée du Nil, et ils vont redescendre. Et ils vont rencontrer donc à peu près tous les peuples qu'on peut encore avoir à ce moment-là, qui sont encore. On voit sur les photos, ce sont des gens qui sont encore. On ne voit pas, c'est du traditionnel, quoi, je veux dire, mais ils sont vraiment. Ils ont encore leur culture, quoi. C'est encore les peuples, les Soudanais, ils ont encore leur culture, ils vont encore rencontrer les Maasai. On les voit avec leurs costumes et selon les traditions, et surtout ils s'intègrent vraiment dans ces populations là. Donc au Soudan, à Khartoum, ils sont aidés aussi par le fait qu'ils sont musulmans, parce que c'est des pays qui sont encore maintenant instables avec des problèmes de religion, des choses comme ça. Ils remontent la vallée du Nil vers les grands lacs, ils vont rencontrer les Maasai, ils vont partir en expédition ben, en safari aussi, ça se faisait encore à l'époque. Ils se retrouvent avec les lions, les éléphants, les choses comme ça. Et ils repartent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils discutent souvent On a souvent les points de vue aussi avec l'histoire musulmane de l'Afrique. Et donc, ce qu'il y avait aussi avec. Tout l'historique des relations qu'il pouvait y avoir entre les pays arabes, les pays du nord du Sahara et les pays du sud du Sahara. Et tout le commerce et toute la colonisation qui avait été musulmane, qui avait existé avant la colonisation donc, occidentale en Afrique. De ce fait-là, quand il se retrouve à Zanzibar, on voit aussi tout le problème qu'il peut y avoir avec les ressources de l'Afrique et donc les ressources aussi de la vie. Si on parle de l'écologie maintenant, si on parle de la vie sauvage en Afrique et les choses comme ça, ils sont déjà conscients de ce qui va se passer, de ce qui est en train de se transformer, de la pression démographique qu'il peut y avoir et du fait que bah, la vie sauvage risque de disparaître et les peuples qui sont en train de filmer et leur culture risquent de disparaître quoi, en fin de compte. Et tout ça, ils en sont très conscients. Donc, ils le filment vraiment tout le temps et on voit aussi les histoires. Alors, pour survivre en Afrique, ils font un peu de toutes sortes de métiers. Ils se retrouvent à trafiquer un petit peu des pierres précieuses. À Zanzibar, ils voient du trafic d'ivoire. C'est impressionnant. Et les tas de défenses d'éléphants qu'on peut voir là, sur les photos, les choses comme ça. Et ils se retrouvent eux-mêmes ils vont remonter après sur l'ouest de l'Afrique. Et en remontant sur l'ouest de l'Afrique, ils vont rencontrer donc les pays, dans les pays qui sont en train de se libérer, et notamment les premiers pays comme le Ghana qui s'ouvre, non pas le Ghana, c'était occidental, mais à côté qui s'ouvre à l'Union soviétique, et les problèmes qu'ils vont rencontrer. Donc les soviétiques qui commencent à installer des camps en Afrique, ce qui fait qu'eux, ils sont bloqués, ils arrivent à se sauver parce que les gens qui sont entraînés dans ces camps-là, qui doivent aller dans les autres pays, ils doivent aller en manœuvre, et puis pendant ce temps-là, ils arrivent à se sauver, et eux, ils arrivent à se sauver jusqu'au Sénégal, et au Sénégal, bon, ils repassent un peu plus d'un côté, c'est juste indépendant à ce moment-là, mais c'est un peu plus ouvert pour eux, et ils vont remonter comme ça, ils veulent reprendre le bateau à Agadir et ils voulaient remonter par la Mauritanie, ils voulaient au moment traverser le Sahara, ils vont se retrouver bloqués à la sortie de Mauritanie parce que à l'époque il y avait l'Espagne, l'Algérie et le Maroc qui revendiquaient le sud du Maroc et le nord de la Mauritanie donc pour eux-mêmes. Donc ils sont obligés un petit peu de négocier avec ces choses-là. Ils vont être à la fois avec la Shell qui va les aider, ils vont aller de fort en fort français en Mauritanie, mais après ils vont être bloqués pour les FLN. Après, comme ils sont musulmans et que les gens réalisent que c'est vraiment des Iraniens et pas des Français qui sont là, ils vont pouvoir passer. Ils vont arriver jusqu'à Agadir, ils reprennent le bateau et ils vont rentrer chez eux. Et une fois rentrés chez eux, et ben, l'histoire va les oublier. Ils vont sortir un bouquin qui va être en anglais, qui sera publié en anglais, qui ne sera jamais traduit en français. On va bien parler de leur film pendant un moment, mais on va un peu les oublier. Et la fin est très jolie quand même. Donc il y a Issa et Abdullah. Issa, c'est le premier, Abdullah, c'est le second. Issa, ils vont ouvrir un musée à Téhéran en 2004, donc c'est déjà après le chat. Le musée va servir aux étudiants qui font de l'ethnologie aussi en 2004. Donc Jean-Louis Osvald va rencontrer donc Issa en 2017 à Téhéran, qui est toujours pareil. Issa aura entre-temps escalader le Kilimandjaro. Il était le premier Iranien à escalader le Kilimandjaro. Et Abdullah, lui, il a eu une rencontre lors de leur voyage au Chili. Il a rencontré une étudiante. Il avait expliqué un petit peu la vie des Inuits. Elle travaillait là-dessus. Elle faisait une thèse là-dessus. Il repasse à Buenos Aires en poste restante. Il voit les lettres de l'étudiante. Il dit bah voilà, j'ai réussi mon doctorat, c'est grâce à vous. Il commence à correspondre l'un et l'autre. Et puis, après avoir fait le voyage en Afrique, il va retourner au Chili, il va vivre là-bas, il va épouser cette étudiante, il va ouvrir une boîte de prod et il va produire à peu près une trentaine de films. Il produisait au Chili, il était très connu au Chili pour ça. Il va partir avec les Chiliens en Antarctique, avec les expéditions chiliennes en Antarctique. Et Jean-Louis va le rencontrer en 2014. Et hélas, lui, il est décédé depuis.
Ouais, je pensais que, justement, j'allais dire, est-ce qu'on va aller voir au salon de Douai?
C'est
la question que je voulais alors poser. Alors là, tu vois, la... décédé.
On sait tous ce qui s'est passé.
Des fois, Fabrice, il aurait les aurait invités.
Moi, je les aurais accueillis avec plaisir.
Ah oui, ouais, tu vois, il y a de l'histoire là aussi.
On va essayer d'inviter des gens comme Jean-Louis Oswald ou des choses comme ça qui dégassent leur livre. Parce que Jean-Louis Oswald, c'est quelqu'un qui travaille, qui travaille chez 3M. C'est quelqu'un, tu vois, qui a écrit ce livre-là. Mais Issa, ce qui intéresse. On peut se demander ce qu'il est devenu avec les événements qu'il y a en Iran. Mais en ayant voyagé et travaillé en Iran, je trouve que ce sont des gens qui sont... C'est vraiment un livre vraiment porteur d'espoir et on trouve vraiment cet esprit ouvert des Iraniens quand on voyage sur place.
Que tu prends le bouquin pour le salon de Douai, là, hein, sur le stand.
Et puis on mettra les références.
Ils ont été intéressés par ce récit là et ils pourront venir nous voir.
On peut le trouver donc voilà. Il y a la autour du monde, la librairie autour du monde qui était fermée dans le vieux Lille vient de réouvrir rue Gambetta et on peut se trouver ce bouquin là.
Très bien. Voilà, l'émission se termine. On fait comme on a fait au début. Bah Johanna, voilà. Tu voulais nous parler de bière.
Non, c'est parce qu'on a parlé de bière un peu tout à l'heure, pendant les pauses.
On a des échanges culturels.
Donc voilà, à l'abbaye de Clermarais, on fait aussi notre propre bière. Enfin, c'est pas moi, c'est le brasseur de Clermarais qui fait ça, dans l'enceinte de l'abbaye. Et il y en aura bien sûr à la Old Race.
Oui, et puis il y a des, sur les bouteilles, sur certaines cuvées, il y a un peu d'historique de l'abbaye de Clermarais.
Et tu sais toujours qu'il faut rajouter hein, quand on parle d'alcool. Parce qu'il y a quand même. C'est, voilà.
Ah, mais là, elle est ça faiblement.
À déguster avec.
Modération.
Voilà, d'alcool n'est pas énorme.
Ensuite, c'était Philippe. Alors, Philippe, l'année prochaine, tu remets ça?
Ouais, sans modération, du sable, du sable, du sable.
Dis-moi, je sais que ta femme.
Oui. Hein.
Elle n'est pas trop d'accord.
C'est mon seul sponsor. Hein. Donc
c'est elle qui sponsorise.
J'espère pouvoir, cette année, peut-être faire l'entièreté du championnat de France.
Ça te fait de la route.
Ouais, bon, c'est un petit défi que je me.
T'arrives à trouver avec des. T'arranger avec des pilotes, d'autres pilotes?
Non, on fait ça un peu en famille, quoi. Donc voilà.
Ah ouais, en famille, d'accord. Maxence, alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Attention à toi.
Moi, je vous remercie pour l'invitation et venez nombreux chez Fuel Motor.
C'est ça, je me doutais bien.
À Seclin, rue de l'Industrie.
Je me doutais bien.
Pour essayer nos marques.
Ouais, c'est ça. T'as raison. Ouais. Et donc l'année prochaine, tu vas refaire le. Oui. Il me tresse. Hein. Tu refais le Touquet?
J'espère le refaire, ouais.
Voilà, ok. Très bien, voilà. Et puis, après, il y avait Fabrice. Alors, t'as vu, pour être encore plein d'idées aujourd'hui.
Venez tous au salon de la moto. Hein, venez voir Sarah Lesito.
Oui,
c'est quand même intéressant.
Elle est un peu barrée, quand même. Hein. Non
Non.
Non, mais. T'oses pas le dire. Non, mais sur les réseaux sociaux, on voit un peu ce qu'elle fait, là.
Apparemment,
c'est fort. Hein. C'est fort hein.
Elle doit gérer. Parce que...
Elle gère, oui, non, mais.
Mais quand on voit la trajectoire qu'elle a eue, parce qu'on en avait parlé il y a quelques années, c'est une fille formidable.
Voilà. Et puis, donc, 14-15 mars. Hein.
14-15 mars, tous les concierges seront là, dont Fuel Motors.
Ah, quand on est heureux. Franchement. Voilà. Et donc, 10h, samedi, c'est 10h.
10h-20h. 20h. 10h-18h le dimanche. Et il y a une moto à gagner.
Et un quad aussi, hein. Et voilà. Et puis c'est entre 7 et 8 et 11 euros l'entrée. Hein.
Ouais, c'est très, très abordable par rapport à ce qu'on propose.
Voilà.
Et sinon, aujourd'hui, c'est le salon de la moto à Ouescal.
Oui, c'est un peu chaud. Hein, et c'est organisé par qui?
Par les amis de la moto.
Et donc.
Et son président pour nous parler.
C'est ouvert jusqu'à 18h. Vous pouvez y aller. Quelle heure il est? Midi. Il est midi 30.
C'est à la salle des fêtes au centre-ville de Ouescal. C'est pas dur à trouver.
Vous finissez de manger et puis allez directement après à Ouescal.
Il y a une belle moto à voir. Il y a pas mal d'exposants. C'est sympa.
Et là, c'est beaucoup moins cher que le salon de Douai.
Mais il n'y a pas autant de choses.
C'est 3 euros. 3 euros, Fabrice.
Non, mais bon, c'est pas la même dimension.
Pas la même dimension quand même, hein, faut avouer.
Ils sont très forts quand même à Ouescal.
Le thème cette année, sont les motos japonaises, c'est ça
Oui, c'est ça. Les Yuktamer.
Ouais, des années 80, dans leur jus.
Alors, c'est godis, pièces rares, bourses d'échange. On peut y boire un godet. Manger un sandwich si vous n'avez pas mangé encore, hein, et parler road trip. Tiens, road trip, tu vois, c'est bien, Yves. Mécanique et panne mémorable, Philippe.
On peut
y parler là, de tout ça, tu vois, au motor show là, au vintage motor show. Voilà.
On évite les pannes.
Voilà. Merci Yves aussi hein, pour ce résumé. Oui, il faut que tu prennes dans le micro.
Enfin
oui.
La fin.
Enfin la fin, voilà.
Mais on peut trouver le bouquin à Lille maintenant.
Voilà, voilà, très bien. Voilà.
Sinon, on le commande et on a un petit cadeau avec.
Ok, et qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre éventuellement Fabrice, éventuellement. Non, t'as pas. On a toujours oublié quelque chose à la radio.
Non, j'ai vu que tu avais ta moto, tu l'as préparée pour l'année prochaine.
Alors moi j'ai vu la moto, oui, tu as vu. Alors là, on va reprendre 10 minutes là si tu parles de ça.
Moi je reste sur les bières parce qu'au salon de Douai, il y aura des bières au nom évocateur. Hein.
Voilà. Et donc oui parce que j'ai pas vu. Il y a aussi un côté repas, enfin food truck avec.
Ouais, c'est très sympa.
J'ai vu dans le dossier de presse.
Une dizaine de food truck qui sont tous différents les uns des autres, donc ça va vraiment être sympa. Un prix très abordable.
Merci Patricia. Hein, on revient donc à l'origine de cette émission hein, pour les femmes en moto. Hein. Voilà. Et ben passez un bon dimanche. Passez un bon dimanche. Et on se retrouve, messieurs aussi, merci d'être venus. Passez un bon dimanche. Merci et on se retrouve dimanche prochain sur les ondes de Campus à partir de 11h.